Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse-et-Corso. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute.
On est tellement reconnaissant d'être ce matin avec vous. Comme tu l'as dit, voilà, on a eu une saison difficile. Et quand on a su qu'on était en Suisse, Luc tout de suite il a dit « Ah, ça serait super de vous avoir ». Et on a dit, et il a dit bah, « Soit... » cette date-là, ou soit plus tard. On a dit, oh non, on a envie de venir rapidement. On a envie d'être avec vous. Il a dit, alors oui, la seule chose, c'est que c'est un verset imposé. On a dit, oui, bon, si c'est la Bible, ça devrait aller. Et quand on a lu ce verset qu'on vient de lire, on a dit, waouh, oui, on a envie de prêcher sur ce sujet. Oui, ça nous touche particulièrement de parler de tout un Pierre qui est juste extraordinaire, de ce qu'il vivait à l'époque, mais spécialement dans ce chapitre 3. Où on a cette souffrance, où on a cette joie, où des fois c'est difficile pour nous de mettre tout ça ensemble. Et dans ces dernières semaines, on a vraiment été... ça a été vraiment un processus, en fait, dans notre tête, dans notre corps, dans notre famille, dans notre maison et dans le ministère. Mais ce que je retiendrai vraiment de ce chapitre, c'est cette exhortation à partager notre témoignage. Cette exhortation à « mais qu'est-ce qu'on fait ?» au milieu de la souffrance, quand c'est difficile, qu'on arrive à s'accrocher à Dieu. Ben ça, c'est important de pouvoir le témoigner. Et on est content ce matin de pouvoir passer à travers ce texte, pouvoir aussi vous donner des témoignages de vie de ce qui s'est passé dans cette saison. Mais on aimerait vous encourager, vous, que vous vivez actuellement, aujourd'hui même, ou peut-être hier, et vous encourager à le partager plus loin, à le partager à quelqu'un de votre famille, dans votre voisinage, ou aller dans la rue. À la rencontre des gens.
En tant que chrétien, nous ne sommes pas immunisés à la souffrance, malheureusement. Marcher à sa suite et faire sa volonté ne retire pas la souffrance qu'il peut y avoir dans nos vies. On a pu le réaliser de plus en plus en vivant en Haïti, voyant toute la souffrance des gens autour de nous, des gens qui souffrent physiquement, des gens qui ont faim, des gens qui souffrent de traumatismes. Mais au milieu de ça, on a aussi vu Dieu qui traçait un chemin, on a aussi vu Dieu répondre à nos prières, et on a vu Dieu qui a continué chaque jour à démontrer sa fidélité et sa bonté. Et du coup, comment faire face à l'opposition? Ou plutôt, comment être face à la souffrance, puisqu'on ne peut pas l'en empêcher? Très souvent, on ne peut pas changer les circonstances qui nous entourent, mais on peut changer comment nous-mêmes on réagit face à ces circonstances. Tu souffres peut-être de la perte d'un être cher, d'une maladie, de la dépression, de la pression au travail. Et si tu n'as pas le contrôle sur ces souffrances, par contre, tu peux choisir ton attitude face à la souffrance. Alors ce matin, dans le texte de 1 Pierre 3, il y a justement ces différentes attitudes, ces différentes choses qu'on peut avoir face à la souffrance.
Et je pense qu'une des clés qu'on a pu le partager avec les enfants ce matin, c'est trouver la joie. Au milieu de cette souffrance, cette joie qui nous porte, cette joie qui est des fois pas explicable. Qu'est-ce qui se passe qu'on puisse comme ça être heureux? Quand il écrit « Quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux ». Et en fait, il y a cette ambivalence où on se dit « Mais comment on peut souffrir et être heureux ?» Et en fait, il y a une joie qui est vraiment pas explicable. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous rend heureux. Ça peut être des chicken nuggets du McDonald's. Pour vous, c'est la première chose qu'on a mangé en revenant en Suisse. Parce que dans les autres pays qu'on voyage, il n'y a pas la sauce curry et le sweet and sour. C'était incroyable. On est arrivé à Zurich et après 10 minutes, on était au McDonald's. Désolé. Il y a eu la fondue qui a suivi assez rapidement après quand même. Comment on peut en fait être dans cette souffrance et cette tristesse et en même temps avoir la joie du Seigneur? Par-dessus toute cette aventure, cette échappé d'Haïti, on a vu la main de Dieu. Et en fait, au moment où Dieu il est tellement proche, il y a sa présence qui nous remplit de cette joie. Juste avant que cette crise en Haïti explose, pendant un moment de prière, j'ai senti qu'on devait aller aux États-Unis. Ce n'était pas le bon timing, ce n'était pas le bon moment. Et tout d'un coup, j'ai dit, on part. Et après 4 jours, on est parti aux États-Unis. Et on a fait une semaine aux États-Unis. Et c'est cette semaine qui nous a rechargé nos batteries, qui nous a encouragés, qui nous a donné les paroles prophétiques. Samedi, je parlais avec un ami, et il a dit « Oh waouh, mais Jonathan, t'as beaucoup d'émotions là au milieu. » Je fais, ouais, mais ceux-là, je ne peux pas trop les laisser monter parce que autrement je pleure et c'est trop difficile. Il fait, oh, mais il faut que tu rencontres ce couple, ils sont incroyables. C'est des docteurs qui ont fait des recherches sur les émotions. Et j'ai dit, ouais, mais c'était samedi, tu sais qu'on part lundi matin ? Il fait, ah, ouais, mais demain, ça devrait jouer. C'est des gens assez importants qui ont. Voilà, j'étais un peu gêné de devoir le demander le dimanche après-midi. Il y en a pu avoir 2 heures avec eux. Ils nous ont invités chez eux et ils nous ont partagé ce qu'ils font. Et vraiment, leur travail, c'est d'aider aux gens à savoir qu'ils ont des émotions. Et quoi qu'il se passe, c'est des signaux lumineux qui allument notre cerveau et qu'on ne peut rien faire pour les enlever. Quelqu'un qui vient là avec une mitrailleuse, vous aurez tous peur. Même si vous dites très fort, j'ai pas peur. La même chose si je mets des nuggets là devant vous. Vous allez commencer à saliver, ça donne envie. Peut-être pas tout le monde. Mais c'est des informations qui viennent. Et on a pu avoir ce temps et nous disait, mais ce qui est important, c'est de pouvoir partager ses émotions. Et on a pu suivre cette formation. Lundi, on est arrivé en Haïti, lundi matin. Et jeudi, ils attaquaient la plus grande prison. Ils relâchaient 4000 prisonniers. Ils ont attaqué des banques, des écoles, des hôpitaux et les stations de police. Le port a été rapidement attaqué, l'aéroport attaqué. Et là, je vous promets qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Et on a pu apprendre à pouvoir juste prendre du temps en famille pour les exprimer. On a pris du temps avec nos équipes et avec les gens qui vivaient tous ces traumatismes. Que ce soit la maladie, que ce soit la faim, que ce soit la souffrance physique ou mentale. Cette souffrance, si on la garde en nous, bah, en fait, petit à petit, elle nous tue, à petit feu. Et le pire qu'on peut voir, c'est quelqu'un qui ressent plus d'émotions. À force de souffrir, on va se fermer de toutes nos émotions. Et quand on se ferme nos émotions, on se dit « Ah, mais comme ça, je pleure pas parce que j'ai mal. » Ou « J'arrête de penser à la maladie. » Mais le problème, on se coupe aussi de la joie. Et dans ce temps, on a pu, avec nos équipes, avoir des temps de joie et des temps de partage d'émotions. Et de voir un papa haïtien avec des larmes de joie d'un temps où on sait que sa famille est vraiment en train de littéralement mourir de faim. Il a dû traverser des zones de guerre, il a dû se cacher des voitures à cause des balles. Et il arrive à trouver cette joie en Christ, en ayant ces temps jeudi. Ça nous a vraiment impactés et transformés.
Dans 1 Pierre, on voit aussi l'importance de garder Jésus au centre. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Gardez Jésus au centre de nos vies, de nos pensées, en lui accordant une place de première importance. Et quand on peut louer Dieu au milieu de nos souffrances, c'est une des louanges les plus pures. Parce qu'on a, c'est pas, ça vient pas de « Oh, c'est trop bien, j'ai vécu ça, je peux le louer. » Je souffre et je le loue. Et le chant « Tu es saint, tu es saint », on l'a chanté en Haïti, jeudi soir. Un soir où il a fallu éteindre toutes les lumières pour se faire discret, au milieu des tirs. Et on a décidé de vivre un temps de louange ensemble. On était fatigués, on était stressés, on aurait pu avoir beaucoup d'excuses pour se dire « c'est pas le moment de faire un temps de louange, voyons, allons dormir, faisons autre chose ». Certains diraient « buvons du rhum ». Et on s'est assis sur cette galerie, on a mis l'ordinateur, on a juste commencé à chanter ces chants de louange. Et de pouvoir proclamer ces paroles au milieu de ce désespoir, au milieu de ce chaos. Dieu a été, il est venu juste avec sa présence, avec sa douceur, avec sa paix. En chantant qu'il est saint, son nom est au-dessus de tout, peu importe les circonstances.
Et ça a été un moment tellement beau et qu'on se raccroche à ce moment en fait. C'est inexplicable et en même temps on sait que vous l'avez sûrement vécu, ces moments où c'est tellement difficile. On peut plus se raccrocher à nos assurances maladies, à la réga, à des amis, à même à la famille des fois, où on se sent extrêmement seul. Et de là au milieu, de pouvoir rencontrer une personne qui est Jésus-Christ, ça change toute chose. Et on voulait vraiment ce matin vous encourager à ça, à pouvoir fixer vos yeux à Jésus dans ces temps difficiles. Et oui, c'est une crise, on va dire comme certains disent, une crise en plus en Haïti. Mais on sait que des fois, c'est comme ça aussi dans nos vies et dans vos vies. On se dit, ah, encore une crise. Est-ce que je vais avoir la force? Et la réponse est non. Mais Jésus, il est là, il marche avec vous, il va vous donner la force pour avancer. Et après, on voit qu'il continue en disant, mais être prêt à défendre avec foi, sa foi avec douceur et respect. Et c'est vrai qu'on a eu ces gens qui ont dit, mais qu'est-ce que vous faites avec deux petits garçons en Haïti? Et quand on a dû regarder, mais comment s'échapper? Quand il n'y a plus d'aéroport, plus de port et les frontières sont fermées, il ne reste pas beaucoup d'options. On a une super équipe qui est autour de nous. Il y a eu un plan qui a été élaboré avec une équipe de paramilitaires qui pouvaient venir, mais ils demandaient un demi-million. Alors, ce n'est pas l'argent qui nous a dit qu'on n'allait pas le faire. C'est plutôt se dire, voilà, des paramilitaires au milieu d'Haïti, ça va plutôt être plus catastrophique que juste rester à la maison. Vraiment, on se sentait en sécurité à la maison. On ne pouvait pas sortir. On a été dans notre petite bulle. Mais là, on a dû aussi faire face à des gens qui nous disaient « Mais c'était insensé ce que vous avez fait. On vous a dit depuis longtemps qu'il fallait partir d'Haïti. Pourquoi vous appelez pas la Suisse qu'ils envoient la Rega ?» Il y a eu plein de bonnes idées, mais on a dû aussi se dire « Mais voilà, défendre en fait. » Et un moment qui m'a particulièrement touché, donc on est parti d'Haïti avec des voitures blindées, ensuite on a pris des motos par-dessus les montagnes d'Haïti, en 4 heures de moto. Et après, on a eu un petit bateau qui a pu nous emmener jusqu'en République dominicaine. Donc, c'est un voyage qui a duré 2 jours, qui a été fatigant, difficile, mais on a vraiment vu la main de Dieu dans tous les détails de ce voyage. Et on ne peut pas faire plus long sur ce voyage, mais voilà, on a vraiment vu la main de Dieu et on se réjouit. On va essayer de sortir une vidéo et on va sortir plus de témoignages parce que Dieu a été à l'œuvre depuis le matin jusqu'à ce qu'on ait des nuages, qu'on traversait la montagne d'Haïti où on aurait dû brûler au soleil sur ces motos, et on a des nuages qui ont recouvert toutes les montagnes d'Haïti jusqu'au bateau où on pensait vraiment qu'on allait chavirer et on a pu arriver à bon port. Mais là au milieu, ce qui m'a le plus touché, c'est en arrivant aux États-Unis, on a eu un interview, il nous a dit « Mais vous devez partager votre témoignage ». Et à ce moment-là, on était plutôt en train d'essayer de comprendre si on était heureux, triste, joyeux, en colère, on avait plutôt la honte d'avoir laissé tous nos amis sur place et toutes ces émotions. On a dit « Non, mais... partagez votre témoignage. C'est jamais le bon moment de partager votre témoignage. Parce qu'on n'est jamais prêt, on n'a jamais les bons mots, on n'a jamais le temps. Et pourtant, c'est là le meilleur moment. » Et on a été, 4 jours après être arrivé aux États-Unis, on nous a dit « Ah, mais on fait un podcast et on vous enregistre et on parle. » Et il y a quelque chose qui m'a touché parce que cette personne qui nous a interviewé, il a posé la question à Flore, « Mais pourquoi vous sacrifiez vos vies et votre famille pour Haïti ?» Et là, Flore, comme dans ce verset, avec une paix, un amour, une douceur et un respect, elle a dit, mais tu sais, Jésus, il est autant présent en Haïti, dans nos vies, qu'il l'est en Suisse ou aux États-Unis. Et de savoir que là où vous êtes, vous avez le prince de paix qui marche avec vous et il peut vous utiliser à travers vos témoignages de vie. Et encore, on voulait vous encourager avec cet amour, ce respect, cette douceur, mais partagez votre amour. Et qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin?
1 Pierre nous parle aussi d'avoir une vie intègre, avoir une bonne conscience. Est-ce que nous allons rester intègres lorsqu'on va être poussé dans nos retranchements? Et c'est dans nos souffrances qu'on peut être un témoignage et qu'on peut vivre selon les principes de la Bible, mais c'est aussi là où on peut être poussé dans nos retranchements. Et on pourrait se dire, ah, peut-être, un petit mensonge, ça serait arrangeant dans cette situation difficile. Par exemple, hein, c'est vrai, quand on était au milieu de ce danger, au milieu de ce chaos, pour nous, c'était important de garder une bonne éthique. Et on a vu des gens dans le stress de vouloir juste s'échapper. Ils se sont dit, ah ben on va dire des mensonges aux journalistes, comme ça on va empirer la situation. Les gens auront plus pitié de nous et on va pouvoir partir. Et on s'est dit, c'est vite fait. C'est compréhensible quand même dans ce genre de situation. Mais des fois on est tellement poussé dans nos retranchements, on peut commencer à faire des choses qui sont plus intègres.
Un petit compromis. t'ai promis qu'on ferait pas ça, mais bon, là, non, c'est pas trop grave. Et le problème, c'est avec ces petits compromis que petit à petit, on s'éloigne de Dieu. Et si chaque fois qu'on a envie de faire un compromis, on lève nos yeux à Jésus, on lui dit, mais en fait, pas me compromettre, je vais faire confiance. Ben, c'est là qu'on peut continuer à avancer dans une vie intègre. Et du coup, après ces paramilitaires qu'on a mis de côté parce qu'ils voulaient juste arriver, tirer dans le tas et nous faire sortir, ou éthiquement parlant, on avait un petit peu de peine quand même, les autres plans, c'était des hélicoptères qui venaient récupérer des gens sur les toits ou dans des différents endroits pour les faire sortir en République dominicaine. Et de nouveau, on a eu ces questions d'éthique. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bien? Ce n'était pas ni légal de faire ça parce que les frontières étaient fermées. C'était ni franchement correct parce qu'ils demandaient 10 000 dollars par siège. Et il y avait toutes ces questions. En plus de la peur, de la crainte, de manquer de nourriture, de se faire tirer dessus, de toute cette réalité. Et je pense là, on a besoin du Saint-Esprit. Dans ces temps difficiles, on doit prendre des choix qui sont des fois impossibles. Est-ce que je dois compromettre ma foi pour guérir de ma maladie? Est-ce que je dois compromettre mes principes, nos principes bibliques? Et petit à petit, le Seigneur nous a guidés vers une porte de secours, un chemin qui s'ouvrait là au milieu du chaos, en ayant appelé plusieurs amis, plusieurs personnes. On a pu avoir ce chemin qui s'ouvrait au milieu de la capitale, où on a dit, mais c'est comme ça qu'on doit sortir. On a besoin de temps pour sortir de ce pays. On ne peut pas juste être arraché aux gens qu'on aime, à ses familles. Et c'est marrant parce que le Saint-Esprit était tellement là. Il a guidé toutes les étapes où, ah oui, on a des voitures blindées disponibles dimanche matin à 9h. On peut vous amener. Un ami missionnaire qui dit, ah oui, je peux avoir 6 chauffeurs moto qui traversent la montagne pour venir vous chercher, pour retraverser la montagne. Donc passer 8 heures sur une moto. Et tout s'est mis en place. Et c'est seulement en arrivant aux États-Unis que je parlais avec un ami. Et il me dit, ah, c'est dingue, parce que j'ai lu dernièrement une recherche qui dit que les soldats américains, à la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu moins de stress post-traumatique que les soldats américains qui ont vécu la guerre du Vietnam. Je dis, comment ça? Oui, parce que les soldats américains, après avoir vécu tous ces traumatismes, ils ont été dans des trains pendant plusieurs semaines pour rejoindre la côte, où ils ont eu des gens qui les comprenaient, qui ont vécu des choses similaires, où ils ont pu partager ce qu'ils ont vécu. Et ensuite, ils ont pris des bateaux qui les ont fait traverser. Et ensuite, ils sont arrivés en tant que héros, où ils ont été accueillis, où ils ont pu partager, où ils ont pu prendre soin. Contrairement à la guerre du Vietnam, où ils ont été pris avec des hélicoptères, où ils ont été redéposés dans leur réalité, où il a fallu recommencer à travailler, où les gens ils avaient honte de ce qu'ils ont fait, où ils ont dû cacher, et où il y a eu beaucoup plus de stress post-traumatique. Et c'est là où on s'est dit, oh waouh, le Seigneur avait prévu, il nous a dit que ce n'était pas bon ces hélicoptères, mais qu'on avait besoin de ce chemin. On a eu toute la communauté missionnaire qui venait à Kainos pendant ces différentes années, où ils ont pu se mettre, où quelqu'un a pu venir nous chercher en pick-up, quelqu'un a loué une voiture pendant ses vacances et a roulé 12 heures de temps pour venir nous chercher. Et on a pu partager ce témoignage, il en a pu avancer, il en a pu petit à petit guérir aussi.
Et on a été aussi encouragés par l'exemple des Haïtiens qui, au milieu de la souffrance, gardent, restent intègres. Et il y a des familles qui vivent dans le bidonville de Cité Soleil. Et dans ce bidonville, il y a parfois des distributions de nourriture. Sauf que ces distributions de nourriture, elles sont organisées par les gangs qui, très souvent, ont été volées cette nourriture. Et ces familles-là, ils disent, certaines familles, ils disent « Je vais à l'église, je suis Dieu ». Et même si j'ai faim, je n'irai pas me nourrir dans la nourriture de ces gangs. Et pour nous, c'est un exemple d'intégrité. Parce que même quand ils ont faim, quand leur famille ont faim, quand leurs enfants ont faim, ils ne vont pas aller manger dans la nourriture de ces voleurs.
Est-ce que nos problèmes, nos souffrances nous empêchent de vivre selon la volonté de Dieu? Ou est-ce que nos souffrances nous rapprochent de Dieu? Nous encourage à lui faire confiance.
Au milieu de ce chaos, au milieu de tout ce stress, chaque jour quand on se levait, il y avait un, deux possibilités. Soit on restait dans son lit, on partait en mode dépression, plus rien va, c'est horrible, qu'est-ce qui se passe ? Ou soit on décidait de se lever, de se battre, d'avoir confiance, de garder espoir et de croire que Dieu va continuer à agir. C'est cette attitude et le choix de cette attitude qui faisait toute la différence dans nos journées. Et il y a eu des jours où on a choisi la mauvaise, ou moi en tout cas, j'ai choisi la mauvaise attitude. Tout le monde m'énervait, j'avais envie d'être toute seule, me creuser un petit trou, me cacher. Et il y a d'autres jours où vraiment je me suis levée, où je sentais aussi la force que Dieu me donnait pour pouvoir avancer, pour pouvoir encourager les gens autour de nous et pour pouvoir croire que Dieu continue d'agir.
Oui, Dieu peut se glorifier au milieu de ces situations impossibles. Est-ce que nous voulons transformer nos situations impossibles en témoignage glorieux ? C'est dans notre faiblesse que Dieu se glorifie. Et je voudrais finir avec cette espérance. Et je voudrais finir par le verset 12. On a eu le 13 à 17, mais j'aimerais finir par ce qui vient juste avant. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Et on vous remercie pour vos prières. On s'est vraiment senti soutenu pendant ces temps. On a vraiment senti notre Église nous soutenir dans vos prières, dans vos téléphones, dans vos messages. Et on voulait vous encourager à continuer à prier pour Haïti, à prier pour les gens qui souffrent, à Gaza, en Israël, en Ukraine, au Mozambique et ici en Suisse. On a besoin de gens qui se lèvent et qui prient. Proposez la prière aux gens que vous croisez, à la caissière, à la Migros, au contrôleur CFF. Oui, Dieu a des oreilles pour entendre nos prières. Et après, je me suis dit, ah, mais on ne peut pas finir le chapitre 3 sans juste commencer le chapitre 4. Mais ça, c'est pour dimanche prochain. Et tout d'un coup, on m'a dit, non, dimanche prochain, c'est le 5. Et du coup, je voudrais juste finir avec le premier verset du chapitre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est complexe. Comment, s'il y a la souffrance dans la chair, on en a fini avec le péché. On a touché du bout des doigts de voir la présence de Dieu tellement forte dans ces moments tellement difficiles. Ou dans ces temps, on a l'impression que le Seigneur nous porte et il n'y a aucune difficulté. Et on disait, mais ça a été tellement logique et facile pour nous. On a juste dit, bah oui, on va prendre cette voiture, on va prendre ces motos. Et les enfants étaient tout contents. Ils étaient un peu tristes de ne pas prendre un hélicoptère quand même, mais ni d'être sur un porte-avions. Ils étaient tellement contents d'être sur ces motos et c'était l'aventure. Et aussi, comme il finit dans ce verset, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans sa chair. Et ça, c'est un encouragement pour toutes les personnes qui sont dans où leur corps est dans la maladie, où c'est difficile avec leur propre corps. De dire, mais c'est juste pour un temps. Bientôt, Jésus va revenir et on sera libéré de toute souffrance, de toute maladie. Ayez cette assurance et cette espérance que Jésus va revenir et en finir une fois pour toutes.
Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corzecorzo.eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt!